Gloire à Dieu. On va continuer notre série d'études du mercredi soir. On est ici le mercredi pour vraiment apprendre les choses de la parole de Dieu, les choses de la parole du Seigneur. Et puis, on a choisi de prendre le livre des Actes des Apôtres. Et comme on a mentionné, c'est comme impossible d'étudier ce livre-là mot à mot, parce que ça prendrait probablement des années avant qu'on puisse faire le tour. Mais on veut souligner les points les plus importants du livre des Actes des Apôtres. Et puis, on a choisi ça sous la direction du Saint-Esprit, cette étude-là, parce qu'il y a un grand parallèle, comme on a expliqué, entre le livre des Actes des Apôtres et notre époque, notre génération, puisque le livre des Actes des Apôtres représente la première génération de chrétiens. Et le livre couvre l'histoire de l'Église primitive pour une période d'à peu près 40-45 ans. Donc, c'est la première génération de chrétiens. Et nous sommes la dernière génération de chrétiens. Parce que tous les signes qui devaient nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur Jésus sont désormais accomplis. Alors, ça veut dire que ce que nous apprenons les mercredis soirs dans le livre des Actes des Apôtres, c'est d'une très haute importance pour nous aujourd'hui, parce que Dieu s'apprête. Il a déjà commencé dans plusieurs pays du monde. Et il s'apprête à répéter les exploits du livre des Actes des Apôtres. Et non seulement cela, mais les prophètes de l'Ancien Testament, comme Joël, le prophète Joël, nous a annoncé d'avance que durant cette dernière génération, bien, ce serait au double de ce que la première génération de chrétiens a vécu. Est-ce que vous êtes prêts pour ça?
Amen.
Non, vous n'êtes pas vraiment prêt. Un faible amen comme ça, vous n'êtes pas prêt. Mais je vous le dis, que vous soyez prêt ou non, c'est comme lorsqu'on était jeune, on jouait à la cachette, et tu vas compter jusqu'à 50, et tu cries, prêt, pas prêt, j'arrive. Et le Seigneur dit la même chose à son Église. T'es mieux de te préparer, gloire à Dieu, mais prêt, pas prêt, j'arrive. Je bouge dans l'esprit, et Dieu est sur le point de manifester ces choses au milieu de nous. Et je pense que plusieurs parmi nous, nous serons surpris parce que la plupart d'entre nous, on n'a jamais expérimenté vraiment un grand réveil, un grand mouvement du Saint-Esprit. On a eu quelques petits attouchements ici et là. On a tremblé sous la puissance du Saint-Esprit. On est tombé dans l'Esprit. On a vu certaines choses. On n'a jamais expérimenté un puissant mouvement de réveil du Saint-Esprit au point, comme on le dit souvent, à l'époque de Charles Finney, puis c'est pas loin de nous, dans l'État de New York, aux États-Unis, il y a à peine... Je sais pas, peut-être 75 ans, 70 ans. Non, c'est dans l'État de New York. Et il y avait tellement un réveil puissant du Saint-Esprit que lorsque M. Finney entrait dans une manufacture, un endroit public, les employés, les ouvriers se tordaient de douleur par la conviction de péché que le Saint-Esprit produisait en eux. Et ils criaient, on veut se repentir, Dieu ait pitié de nous. Alors, ça prend seulement un mouvement du Saint-Esprit pour faire une chose semblable, surtout à l'époque où nous vivons, où le cœur de l'homme est tellement endurci, de plus en plus endurci, et c'est pas vraiment vous et moi qui pouvons faire un changement dans le monde, sauf si nous obéissons et que nous sommes disponibles au Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut vraiment transformer une ville, transformer une province, un État, un pays, et il est sur le point de le faire. Gloire à Dieu. Hallelujah. Et il va le faire par la puissance du Saint-Esprit. Et dans notre étude, on est justement dans ce deuxième chapitre du livre des Actes des Apôtres, les quelques quatre premiers versets. On a vu la semaine dernière comment le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit est venu dans cet endroit où ils étaient réunis, alors qu'ils étaient tous assis en train de prier. Saint-Esprit est venu. Puis on a vu la semaine dernière, c'est vraiment plaisant d'étudier chaque mot quelquefois en particulier, parce que c'est des mots qui nous font comprendre ce que Dieu voulait faire dans ce lieu où ils étaient le jour de la Pentecôte. Et ce qu'il va faire avec nous aujourd'hui? On a pris les mots comme un bruit, comme un vent impétueux. Vous vous souvenez de ça? On a dit que le mot vent, c'est pas le mot pneuma qui est utilisé habituellement dans le Nouveau Testament, mais c'est le mot pnoé. Le mot pnoé, c'est un terme médical. Et Luc a très bien compris, parce que Luc, qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, c'est un docteur, c'est un médecin. Et le mot est utilisé dans l'aile de la maternité lorsque le médecin prend le petit bébé puis lui donne cette tape dans le dos pour lui faire prendre son respire parce que le petit bébé vient de changer d'environnement, vient de changer de monde. Jusqu'à présent, il était dans le ventre de sa mère, c'était son monde à lui. Il connaissait rien du monde dans lequel on est ce soir. Mais dès l'instant où il sort de cet univers, le seul univers qu'il a connu à ce moment-là, il reçoit cette tape-là dans le dos du médecin qui lui fait prendre un respire qui va lui permettre de vivre et d'opérer dans ce monde dans lequel nous sommes ce soir. Alléluia! Et lorsque nous recevons le vent du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, on reçoit la tape du Seigneur dans le dos qui nous fait respirer un air nouveau, qui nous fait entrer dans un autre monde, le monde de l'Esprit de Dieu. Et frères et sœurs, ça fait toute la différence au monde entre quelqu'un qui n'a pas reçu ce respire-là dans le monde de l'esprit et quelqu'un qui ne l'a pas reçu. Il y a tout un monde de différence. Quand vous êtes sauvé, vous avez le souffle de vie. Mais lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous avez ce souffle-là, ce respire-là, dans une dimension plus haute, une dimension de l'esprit, une dimension qui est au-delà du raisonnement humain, de la logique humaine, et qui nous permet d'opérer dans la dimension de Dieu. Wow, c'est pas des faces, là. On opère dans une sphère plus haute. Et ce que je voudrais faire pendant quelques temps, je sais pas combien ça va nous prendre de temps, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est de comprendre ensemble pourquoi c'est si important, cette expérience-là, du deuxième chapitre du livre des Actes des Apôtres, le baptême du Saint-Esprit. Et ça doit être drôlement important parce que Jésus, comme on l'a étudié précédemment, il n'a pas suggéré à ses disciples d'attendre le baptême du Saint-Esprit. Il leur a donné un ordre, un commandement. Il leur a ordonné de ne pas quitter la ville de Jérusalem tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ce que je vous ai promis, a-t-il dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il a dit, ne quittez pas la ville tant et aussi longtemps jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ou tant et aussi longtemps que vous ne recevrez pas le baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est pas une suggestion, le baptême du Saint-Esprit. C'est pas une question de dénomination. Souvent, les gens disent, ah oui, parce que vous êtes dans tel groupe, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, mais nous, on croit pas à ces choses-là. C'est pas optionnel, le baptême du Saint-Esprit. Et pour Dieu, de toute façon, il y en a pas de dénomination. Amen. Il y a pas de religion non plus. Les religions, c'est dans les affaires des hommes. Les hommes ont fait des religions. Ils ont créé des religions. Mais Dieu n'a pas aucune religion. Comprenez, si ça marchait par une religion, parce que, tu sais, tout le monde qui est dans une religion, il y en a des milliers de sortes. Il y a plusieurs années, on nous disait qu'il y avait au-delà de 10 000 sortes de religions différentes dans le monde aujourd'hui. Ça, c'est à part des dénominations, des groupes, des sectes. Le monde est pourri de religions. Et ils peuvent pas tout avoir raison parce que tout le monde se contredit. T'sais? Celui qui est dans la religion A, il dit c'est moi qui ai la vérité, puis tout le reste jusqu'à Z sont dans l'erreur. Mais ce qu'il sait peut-être pas, c'est que le gars qui est dans la religion B, il dit la même chose. Tout le monde est dans l'erreur sauf nous autres, on est correct. Ceux qui sont dans la religion C, c'est peut-être A et B ils savent pas, mais ils disent la même chose. Il y a juste nous autres qui est correct. A et B sont dans l'erreur, puis jusqu'à Z sont dans l'erreur. Alors comprenez, si ça marchait par une religion, Dieu nous l'aurait dit. Amen. S'il prend soin de nous donner sa parole et que ça marchait par une religion, il aurait dit, écoutez, c'est pas compliqué, voilà la bonne religion. C'est la religion W et tout le monde qui sont dans la religion W sont corrects, sont sauvés. Mais Dieu ne nous a pas donné une religion. Il ne nous a pas dit quelle religion était la bonne parce qu'il n'y en a aucune de bonne. Ce qu'il nous a donné, c'est son Fils. Alléluia. C'est pas une religion qui a été crucifiée sur la croix de Golgotha pour vous, afin que vous soyez sauvés. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia! Il nous a pas donné une religion, il nous a donné une vie. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et une vie en abondance. Alléluia! Ça veut dire qu'avant de venir à Jésus, on n'avait pas la vie. On avait une vie physique, mais on n'avait pas la vie spirituelle. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, Paul dit, « Vous étiez morts dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » Comment peux-tu être mort puis marcher en même temps? Hein? Il dit, vous étiez mort, mais vous marchez dans ces péchés. Ça veut dire que notre vie physique était vivante, on était vivant physiquement parlant, mais spirituellement, nous étions morts. Et comprenez, il n'y a aucune religion qui peut vous redonner la vie. Aucune dénomination peut vous redonner la vie. Seulement Dieu peut vous donner la vie éternelle, lorsque vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Alors, comprenez, lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, on ne parle pas d'une dénomination en particulier. On parle de ce souffle que vous recevez pour respirer l'air du domaine de l'Esprit de Dieu. Vous recevez l'équipement spirituel pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Et le mot grec, comme vous le savez, pour puissance, c'est « dynamis ». Et c'est en contraste avec l'humanisme. Et tu ne peux pas avoir les deux. Ou bien tu opères dans l'humanisme, ou tu opères par le dynamisme de Dieu. Alléluia! Et tu ne peux pas mélanger les deux. Beaucoup de gens, surtout à l'époque où nous sommes aujourd'hui, essaient de mélanger l'humanisme avec le dynamisme de Dieu. Et ça ne fonctionne pas. Pas plus que vous pouvez marcher dans le monde et dans l'Église en même temps. Amen! Alors, il faut que tu te branches. Ou bien tu es sauvé et tu marches dans le royaume de Dieu, ou tu veux rien savoir de Dieu, puis Dieu dit, ben, va-t'en dans le monde, profite-en, vas-y au maximum, tant qu'à vivre dans le monde, vis au max, parce que c'est tout ce que tu vas avoir. Comprends-tu? Veux, veux pas, un jour ou l'autre, boum, la corde se casse. Le respire arrête. Même si tu te penses bien fin, bien intelligent, spécial, à part des autres, il n'y a personne à part des autres, la Bible dit que c'est le rendez-vous de tout être humain. Et si tu as choisi de vivre pour toi, vivre pour le monde, ben Dieu dit, profite-en, fais ton max là-dedans. Et j'aime mieux quelqu'un qui est complètement froid que quelqu'un qui est entre les deux, qui est tiède. Jésus dit, ou bien tu es bouillant pour moi, ou tu es froid complètement pour moi, mais reste pas tiède entre les deux. Amen. Vous me suivez jusqu'ici? Alors, Jésus donne un ordre à ses disciples afin qu'ils ne quittent pas la ville de Jérusalem avant qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et comme on l'a dit la semaine dernière, c'est pas évident pour eux, parce qu'il n'y a personne encore qui a parlé de ça, du baptême du Saint-Esprit. Tu sais, t'es comme un petit nouveau qui vient à l'église la première fois, puis on te prêche le baptême du Saint-Esprit. T'as absolument aucune idée qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. À quoi ça ressemble, le baptême du Saint-Esprit? Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai accepté un samedi soir. Le mardi soir, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et puis le pasteur, à l'époque, à Saint-Hyacinthe, il a dit ce mardi soir-là que l'Esprit l'avait dirigé à changer son message qu'il avait préparé pour qu'il donne son témoignage comment, lui, il avait été baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, il faut être patient avec les prédicateurs, même s'ils se répètent souvent. Il y a deux raisons. Un, c'est parce que j'avais la tête dure. Mais souvent, c'est parce que c'est pas pour vous, c'est peut-être pour le nouveau qui est dans la salle, qui, lui, il l'a pas entendu encore. Tu sais, comme ce soir-là, pasteur Samson Saint-Hyacinthe, il a dû le compter 10, 15, 20, 30 fois son témoignage, comment il a été baptisé du Saint-Esprit. Tout le monde le savait dans l'église, sauf moi. Je ne savais pas. Et c'était pour moi ce soir-là. Et quand tu as prêché ça, j'avais aucune espèce d'idée qu'est-ce que c'était le baptême du Saint-Esprit. Seule chose que je me souvenais du Saint-Esprit, c'est à l'âge de 10-12 ans, à notre école, à Trois-Rivières, hein, on nous emmenait à l'église, puis il y avait un monsieur costumé en avant, et puis il nous faisait passer tous les petits gars un par un, puis quand on était rendu vis-à-vis de lui, il nous donnait une table. Il disait, reçois le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé vers là, ouais, religion, hein? Maintenant, je comprends mieux maintenant. C'est pas si fou, là, la fin. Parce que je viens de comprendre que c'est une tête que tu reçois aussi quand t'es baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est juste un symbole. Comprends-tu? On ne savait absolument rien, sauf la tête. Mais quand t'es vraiment baptisé du Saint-Esprit, t'as la tête spirituelle et t'as le Saint-Esprit. Alléluia! Et tu peux commencer à respirer l'air de la dimension de l'Esprit de Dieu. Alléluia! Alors, eux, comprenez, dans la chambre haute, ils sont comme moi. Lorsque ce mardi soir-là, j'entends parler du baptême du Saint-Esprit, ils n'ont aucune espèce d'idée qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais il faut qu'il se passe quelque chose dans ce que Jésus a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut ou baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils vont avoir un moment donné où ils vont savoir qu'ils ont su le baptême du Saint-Esprit, sinon, ils auraient passé toute leur vie à attendre. Amen. Comme il y a des gens qui attendent toute leur vie pour être baptisés du Saint-Esprit. Alors, il faut qu'il y ait un signe, faut qu'il y ait une démonstration, faut qu'il y ait une manifestation, en quelque part, qui leur permet de dire, « Wow, on vient d'être baptisés du Saint-Esprit. » Est-ce que vous me suivez? Sinon, ils sont obligés d'attendre encore une semaine, un mois, deux mois, six mois. Mais ils n'ont attendu que 10 jours et ils devaient attendre 10 jours. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir avant ces 10 jours-là parce qu'ils devaient accomplir la fête de la Pentecôte. Et puis, ça dit bien dans votre Bible, dans le chapitre 2, verset 1, « Lorsque le jour de la Pentecôte fut arrivé. » Le Saint-Esprit est arrivé aussi cette journée-là. Alléluia. Il ne pouvait pas venir avant parce qu'il doit accomplir la fête de la Pentecôte. Et là, il y a eu plein de manifestations. Comprenez, il ne faut pas être contre les manifestations parce que les manifestations prouvent quelque chose quand même. Amen. Ça prouve qu'il y a une certaine activité dans le monde de l'esprit. Si t'es assis, sans bouger, rigide comme un cadavre. C'est parce qu'il n'y a pas grande activité surnaturelle. Amen. C'est comme dans l'église, il y a un monsieur qui a fait une crise cardiaque, puis on dit en réveiller 10 avant de trouver le bon. Ça, c'est dormir sûr. S'il y a une agitation dans le monde de l'esprit, il y a une manifestation dans le monde physique. C'est impossible autrement. Parce que tu le vois partout, dans toute la Bible, même dans l'Ancien Testament, même s'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, lorsqu'ils avaient des visitations surnaturelles, il y avait des manifestations physiques. Ce qu'on a dit l'autre semaine, ce qui est parallèle avec le baptême du Saint-Esprit, l'arrivée du Saint-Esprit dans la chambre haute, c'est lorsque Salomon a fait la dédicace du temple. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'il a fait la dédicace du temple? La nuée de gloire de l'Éternel est revenue à Jérusalem dans le temple pour la première fois depuis le jour où ils sont entrés dans le pays de Canaan. C'est quand même quelque chose. C'est pendant 40 ans, ils ont suivi la nuée de gloire. Ils l'ont perdue lorsqu'ils sont entrés dans le pays de Canaan. Elle n'est pas réapparue tant et aussi longtemps que le temple ne fut pas construit. Et en cette journée-là où Salomon fait la dédicace, la nuée de gloire est revenue et c'était plein de cette nuée dans l'endroit où il se tenait, si bien qu'il ne voyait plus, c'est comme une brume épaisse. Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, c'est dit un peu poliment dans votre Bible, il ne put rester debout. Et s'il ne put rester debout, où est-ce qu'ils sont? Poum, ils sont par terre. Amen. Tu avais 120 sacrificateurs qui ont joué le chauffeur en même temps. Peux-tu t'imaginer le bruit que ça peut faire, ça? Tu sais, t'en as juste un des fois dans une église. T'en as 120 même, amplifiés en plus. C'est assez pour tomber à terre. Mais ils ont eu une manifestation physique. Chaque fois que vous lisez les hommes de Dieu dans la Bible qui ont une visitation surnaturelle, il y a toujours une manifestation dans le domaine physique. Alors, ce que je vous dis, c'est que le jour de la Pentecôte, comment ont-ils su qu'ils n'avaient plus besoin de revenir dans la chambre haute pour attendre encore le Saint-Esprit? C'est qu'il y a eu des manifestations. Il y a eu le vent, il y a eu les langues de feu qui se sont posés au-dessus de leur tête. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia! Et il n'y a personne parmi les 120 qui a demandé à son frère ou à sa sœur, « Penses-tu qu'on a reçu le Saint-Esprit? » Tout le monde le savait qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Amen! Parce que si tu es obligé de poser la question, « Penses-tu que je suis baptisé du Saint-Esprit? » Ma réponse est non. Parce que la première personne qui va le savoir, c'est toi. Comme si tu me demandes si tu es sauvé, je vais te dire non. C'est la première personne qui le sait que tu es sauvé, c'est toi. Amen. Amen. C'est pas à moi de te dire que tu es sauvé. Tu le sais, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as un témoignage ici à l'intérieur. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 16, que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu ne le sais pas, c'est parce que tu ne l'es pas. Et ces 120-là, ils n'ont plus besoin de poser de questions. Ils le savent. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et là, il y a la manifestation. Alors, ils le savent. C'est pour ça qu'on dit, tant que tu n'as pas parlé en langue, ça, c'est le premier signe. C'est pas le plus grand, le plus important, mais c'est le premier signe physique. C'est la première manifestation physique qui prouve que tu viens d'être baptisé du Saint-Esprit. Trembler n'est pas une preuve d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est une preuve qu'il y a une agitation surnaturelle sur toi. Et est une manifestation physique. Tomber, tu peux tomber sans être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux avoir de la joie sans être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux avoir toutes sortes de manifestations sans être baptisé du Saint-Esprit. Mais dès l'instant où ça sort en d'autres langues, tu es baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors eux, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et mettez-vous un petit peu dans le soulier ou dans le sandal à l'époque. Ces gens-là, jusqu'à ce moment-là, ils opèrent vraiment par la foi et par l'obéissance. C'est pas nécessairement facile, là, ce qu'ils ont vécu pendant 10 jours, parce que, un, ils savent pas au juste qu'est-ce qu'ils font là. Ils attendent le Saint-Esprit, mais c'est quoi le Saint-Esprit? Comment ça va arriver? Ils savent pas. Puis, deuxièmement, il faut vraiment qu'ils soient obéissants puis qu'ils se retiennent dans un certain sens, parce que ces gens-là, ils ont le plus grand message au monde, puis ça doit brûler dans leur cœur, parce que, écoutez, ces gens-là ont vu Jésus face à face. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont été enseignés par Jésus. Ils l'ont vu chasser des démons, guérir des malades. Comprends-tu? Il y a une connaissance personnelle de Jésus. Et puis, comme on sait, Jésus est mort, crucifié sur la croix. Et à ce point-là, à ce moment-là, il n'y en a pas beaucoup qui croient. Il n'y en a même pas un qui croit vraiment. Puis, vous avez l'image à peu près des sentiments qui animaient les disciples à ce moment-là, parce que lorsque Jésus est apparu à deux qui s'en retournaient vers le petit village d'Emmaüs, relisez ce passage-là dans l'Évangile de Luc, ça va vous en dire long sur ce qui animait le cœur puis les pensées des disciples à ce moment-là. Ils lui ont dit, parce qu'ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus tout de suite, ils lui ont dit, est-ce que tu es le seul qui n'est pas au courant de ces choses-là? Puis c'est Jésus lui-même. Et il dit, tu dois être le seul à Jérusalem qui n'est pas au courant de ça. Il est vraiment mort, 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 mort. Et il dit, nous savions bien penser. Tu sais, ce n'est pas encore dans le domaine de la foi. C'est dans le domaine des pensées. Nous avions bien pensé ou bien cru intellectuellement que c'était vraiment le Fils de Dieu. Si on avait mis notre espoir, notre foi un peu charnelle dans cet homme-là, parce qu'on l'a vu faire des miracles, personne ne parlait comme lui. Mais, pour réveiller ceux qui dormaient, mais il est mort. Es-tu le seul à Jérusalem qui ne connaît pas cette histoire-là? Comprends-tu? Comment ils peuvent être dans les patates, vraiment? Ils parlent à Jésus, puis ils lui disent, t'es probablement le seul qui n'est pas au courant de cette histoire-là, qu'il est vraiment mort, c'est mort. Et puis, ils ont tellement été déçus, parce que faut que tu vives quelques déceptions pour maturer. OK? Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera plus tard, mais il faut que tu sois déçu. Et si t'es déçu, c'est parce que on marchait d'une manière plutôt charnelle que spirituelle. Et puis, ces gens-là étaient vraiment déçus à un point qu'ils ont abandonné le Seigneur. Ils sont retournés à leurs anciens métiers, leurs anciennes professions. Et en plus, ils étaient vraiment des peureux parce qu'ils se sont embarricadés. Ils ont fermé les fenêtres avec des planches parce qu'ils avaient peur qu'ils soient mis à mort, eux aussi. Est-ce que tu suis leur raisonnement? Ils ont dit, si ils ont réussi à mettre la main sur le maître, sur Jésus, celui qu'on pensait que c'était le Fils de Dieu, c'est sûr que, fort de leur succès, ils vont s'attaquer à ses disciples. Ils vont venir nous chercher, nous aussi. Et puis, demain ou après-demain, c'est à notre tour d'être crucifiés sur la montagne. Alors, ils se sont cachés, barricadés les fenêtres, et puis ils se tenaient là, dans la crainte des Juifs. La Bible dit carrément « dans la crainte des Juifs ». Et puis, finalement, la journée où Jésus est ressuscité, je pense qu'on a vu ça la semaine passée, il y a eu l'ascension secrète. Il est monté au ciel tout de suite parce qu'il devait apporter son sang dans le lieu très saint à titre de souverain sacrificateur pour tous les croyants. Il est redescendu du ciel, s'est en allé à Emmaüs, a marché avec les disciples. On est rendu sur le soir de la journée. Ils ont pressé le Seigneur d'entrer dans la maison et puis ils l'ont reconnu à la fraction du pain, la manière qui a brisé le pain. Et ça dit que Jésus est disparu. Et il se retrouvait dans l'appartement où sont les 11 peureux. Il vient de laisser 2 déçus pour aller parler à 11 peureux. Et il est arrivé au travers le mur. Il n'a même pas frappé à la porte. C'est ce qui est le fun avec notre prochain corps glorifié. Ça va être vraiment plaisant. Plus besoin de passer par la porte. Plus besoin de sonnette. Alléluia! Il n'y a plus d'obstacles qui vont nous empêcher d'aller où on veut ou faire ce que nous voulons. Jésus passe au travers le mur. Gloire à Dieu. Puis il dit, me voici. Et ils ont tous fait, ah! Ils ont dit, c'est un fantôme! Un fantôme! J'ai dit, non, je ne suis pas un fantôme. Tu regardes, touchez-moi. Comprends-tu, le matin, il dit, touchez-moi pas. Mais le soir, il dit, touchez-moi. Parce que le matin, il doit monter vers son père comme souverain sacrificateur et tu ne peux pas toucher le souverain sacrificateur lorsqu'il fait la cérémonie du Yom Kippour. Une fois par année, il entre dans le lieu très saint. Mais une fois que c'est terminé, il dit, allez, touchez-moi. Il dit, voyez. Puis en plus, il dit, amenez-moi à manger. Vous allez voir, un fantôme ne mange pas. C'est très connu. Les fantômes ne mangent pas. Mais ce que je veux vous dire avec tout ça, c'est que leur foi a été ranimée. Puis si c'était nous, au lieu de Pierre, Jean, Jacques, les autres, si c'était Mario, Thérèse, Sylvain, Claude, Huguette, notre foi aurait été ranimée automatiquement. Parce qu'ils ont vu Jésus avant, ils ont vécu avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont fait du ministère avec lui, ils l'ont vu mort sur la croix, se sont sauvés, ils étaient vraiment morts. Et là, voici, c'est le même Jésus, parce qu'il y a encore les marques, puis ils sont encore ce soir au ciel. Puis quand tu vas revenir, on va savoir que c'est le vrai Jésus, parce que c'est marques. C'est quand on vous dit le mouvement du Nouvel Âge, vous dit que le Christ, il est à Londres présentement, dans la banlieue pakistanaise de Londres, le Maitreya, comme il l'appelle, il communique de façon télépathique à la télévision avec les adeptes, avec les croyants du mouvement du Nouvel Âge. On l'a jamais vu, ce Christ-là, mais Benjamin Krem, du Tara Center de Londres, nous affirme qu'il est vraiment dans le monde, et puis s'il peut nous le montrer, montre-moi tes plaies dans tes mains, ton côté qui est percé. Et des trous dans tes pieds. Ça, c'est le vrai Jésus. Puis de toute façon, vous n'avez pas besoin d'aller à Londres, il n'est pas là. Il n'est pas en Brooklyn, comme les témoins de Jéhovah disent, qui est supposé d'être là, je pense, depuis 1914 ou 1936. Il vit caché à Brooklyn. Allez pas en Brooklyn, vous perdez votre temps. Je le sais où il est, Jésus. Il est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes. Alléluia! Et il revient bientôt. Mais il reviendra pas à Brooklyn. Il reviendra pas à Londres. La Bible dit, il revient sur la montagne des Oliviers, qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. Alléluia! Et la montagne va se fendre en deux. Grande vallée va être formée et c'est le vrai Jésus cette fois-là qui revient. Amen. Alors, la foi est ranimée soudainement et comprenez qu'ils ont le plus grand message au monde. Ils sont prêts à partir, ces gens-là. Ils ne sont pas comme la plupart des gens d'église que tu es obligé de forcer quelquefois pour aller faire de l'évangélisation. Ils sont prêts à l'évangéliser parce qu'ils ont le message. C'est vraiment réel, c'est vivant. Ils ont vu Jésus vivant, ils ont vu Jésus mort, ils ont vu Jésus ressuscité. Ils veulent le dire au monde. Hey, c'est vrai l'histoire, on l'a vu. Mais Jésus dit, attendez. Bougez pas. Quittez pas la ville de Jérusalem. Même si votre foi est ranimée, même si vous avez le goût d'évangéliser, même si vous avez le plus grand message au monde, et ça va bouger quand vous allez prêcher ça, attendez! Ne quittez pas la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pourtant, si Jésus retient ses disciples pour ne pas évangéliser, il y a sûrement une bonne raison. C'est sûrement très important de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que tous les commandements du Seigneur, c'est aller, aller par le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croiront qui seront baptisés seront sauvés, ceux qui croiront pas seront condamnés. Tous les commandements du Seigneur, c'est bouge, sors, viens recharger ta batterie spirituelle ici, entre les frères et sœurs, mais pas juste pour toi. Maintenant que la batterie est chargée, va par le monde entier, prêche ma parole, amen, témoigne ma parole, sois la lumière du monde. On n'est pas la lumière de l'Église, on est la lumière du monde. Puis c'est là qu'on brille le plus, là où il fait noir. Alléluia! Quand il fait noir, c'est vraiment plaisant d'avoir la lumière. Les deux ne peuvent pas cohabiter en même temps. Tu ne peux pas avoir la noirceur et la lumière en même temps. C'est un ou l'autre. Si on éteint ces lumières en haut, il fait noir. Si on les allume, il fait clair. Quand vous êtes dans le monde, il fait clair parce que vous êtes la lumière du monde. Si vous restez ici en intérieur, c'est noir, 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 noir dans le monde. Et puis parce que souvent les chrétiens ne bougent pas plus, les ténèbres ont bougé, pensent toutes sortes de choses parce que la lumière brille pas fort à l'extérieur. Alors, c'est toujours le commandement du Seigneur d'aller, de briller. Mais là, il dit, n'allez pas. Sortez pas. Tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Ça doit être très important, le baptême du Saint-Esprit. Et ce que je veux voir avec vous, c'est plusieurs raisons pour lesquelles c'est tellement important d'être baptisé du Saint-Esprit. Et le plus rapidement vous l'êtes, le mieux c'est. Amen. Si tu es sauvé ce soir, meilleur temps c'est de recevoir ce soir le baptême du Saint-Esprit. Ou demain, ou dimanche. Attends pas des semaines, attends pas des mois, attends pas des années. Parce que plus tu attends, plus ce sera difficile. Parce que le combat entre le domaine de l'esprit et le monde dans lequel nous vivons, il est perpétuel. Et le combat est entre ce que je viens de vous dire ce soir, dynamisme. Ou humaniste. Humaniste veut dire tout ce qui est raisonné, tout ce qui est de l'homme. Dynamisme, c'est tout ce qui est de l'esprit. Les deux sont en opposition. Et plus tu attends avant de recevoir le dynamisme de Dieu, plus tu vas rentrer dans l'humanisme des hommes. C'est-à-dire que tu vas analyser, tu vas raisonner la chose. Tu vas regarder les autres recevoir, tu vas te poser des questions, tu vas essayer de comprendre pourquoi toi tu ne l'as pas reçu encore, comment ça va marcher quand tu vas le recevoir, et ainsi de suite. Et plus tu analyses, plus c'est difficile de recevoir, parce qu'on ne reçoit pas parce qu'on comprend, on reçoit parce qu'on croit.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Alors, si vous êtes sauvés, vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, vite, 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 ça dépêche. Dépêchez-vous, ça presse plutôt, d'être baptisé du Saint-Esprit le plus rapidement possible, c'est le mieux. Parce que tu n'as pas le temps justement de raisonner, tu n'as pas le temps de poser des questions, tu n'as pas le temps d'analyser, tu crois et tu reçois. Je vais vous laisser ce soir avec un verset, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin, parce que si je commence dans, j'en ai, je pense, 12 raisons très importantes pour lesquelles il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit, et si on rentre là-dedans, on n'est pas sorti avant demain matin. Alors, je vais vous laisser avec Jean chapitre 16, verset 7, un verset bien connu, mais qui en dit tellement long sur l'importance du baptême du Saint-Esprit. Jésus dit, et c'est Jésus qui parle. Il dit, « Cependant, je vous dis la vérité. » Jésus dit toujours la vérité. Amen. Dans un autre endroit, ça dit que Dieu n'est pas menteur. Que tous les hommes, la Bible dit, soient reconnus comme menteurs. Mais que Dieu soit reconnu comme véritable. Alors, Dieu ne ment jamais. Jésus ne ment jamais. Il dit toujours la vérité. Mais si il prend la peine de nous le dire, je vous dis là la vérité, c'est que c'est vraiment vrai. Je vous dis la vérité, dit-il, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, Consolateur c'est le Saint-Esprit, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Autrement dit, Jésus dit, parce que quand il a commencé à parler, Jésus, qui devait mourir, il y avait deux choses. Premièrement, ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire, puis deux, ils faisaient un peu la sourde oreille, parce que ce n'était pas dans leur plan à eux qu'il meure. Ils voulaient faire de Jésus un roi. Vous vous souvenez de ça? Même les gens du peuple. Puis Jésus s'en allait toujours, puis il disait, non, dites pas ça. Parce qu'il y avait une raison, évidemment, ça. C'est qu'il ne pouvait pas être proclamé roi comme il l'a été lorsqu'il a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Parce que là, il accomplissait une déclaration qui est dans le livre des Psaumes. Et ça devait se faire une certaine journée. Et c'était prophétisé dans le livre de Daniel, la journée précise où Jésus serait appelé le roi. Et il ne pouvait pas être appelé roi publiquement avant cette journée-là. Et c'est pourquoi, lorsqu'il est entré dans Jérusalem cette journée-là, et que les gens l'ont appelé roi, et ils ont cité le psaume qu'on devait citer à ce moment-là, Jésus, sachant que Jérusalem, la ville elle-même, ne le reconnaissait pas comme roi, parce que les pharisiens, si vous vous souvenez, sont arrivés tout de suite, puis ont dit, ne dites pas ces choses-là. Parce qu'eux savaient ce qu'ils étaient en train de dire. Ils étaient en train de déclarer le psaume qui couronnait Jésus comme roi. Et les pharisiens ne croyaient pas que Jésus était le roi. Il y a tout un contexte à ça. Mais Jérusalem, la ville elle-même, n'a pas reconnu Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il en dit? Si toi, au moins, en ce jour, tu avais reconnu le temps de ta visitation, tu serais sauvé. Mais parce que tu ne connais pas le jour où tu as été visité, le jour, pas la semaine, le mois, l'année, le jour. Parce que si vous calculez la prophétie de Daniel, dans Daniel chapitre 9, alors qu'il donne la prophétie des 70 semaines de temps sur le peuple d'Israël, à la journée près, depuis le jour où l'ordre de la reconstruction de la ville de Jérusalem a été donné, en l'an 445 avant Jésus-Christ, jusqu'à ce jour-là du mois d'avril où Jésus est entré triomphalement dans la ville de Jérusalem, jour pour jour, ça s'accomplit exactement comme ça a été prophétisé. Et Jésus connaissait ce jour, mais les Juifs l'ignoraient. Ils auraient pu savoir s'ils avaient étudié la parole de Dieu. Alors, c'est très précis. La parole du Seigneur. Et quand Jésus parlait de ces choses-là, c'est soit qu'il faisait la sourde oreille, ou qu'il ne comprenait pas, puis il n'osait pas poser des questions. Alors, il a parlé de sa mort, puis c'est comme s'il refusait sa mort. Même Pierre a dit, à Dieu ne plaise. Il a dit, même si ça ne fait pas l'affaire de Dieu, quand il a parlé qu'il s'en allait à la croix, il a dit, wow, non, il n'y en a pas question, tu n'iras pas à la croix, même si ça ne fait pas l'affaire de Dieu, moi, Pierre, j'ai décidé que tu n'irais pas à la croix. Et Jésus est obligé de se retourner vers Pierre puis de chasser les esprits, les satans en arrière de moi. Alors, il ne comprenait pas beaucoup où il faisait la sourderette pour ne pas comprendre parce qu'il marchait plus selon les pensées charnelles, selon leurs ambitions à eux. Et quand Jésus a parlé du Saint-Esprit et qu'il était pour partir, c'est comme normal qu'il voulait le retenir parce qu'il y avait le meilleur. Mais Jésus leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et pourquoi c'est plus avantageux? Il y a plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est que en recevant le Saint-Esprit, nous le recevons à l'intérieur de nous. Êtes-vous sauvé ce soir? Êtes-vous baptisé du Saint-Esprit? Vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit en vous. Tandis que dans le temps du Nouveau Testament, Jésus et le Saint-Esprit et le Père n'étaient dans aucune personne. Le Père était au ciel, le Saint-Esprit était au ciel, il y avait Jésus sur la planète, et Jésus n'était qu'un seul endroit à la fois. Si tu as besoin de Jésus et il est à Jéricho, il faut que tu ailles à Jéricho. Si Jésus est à Jérusalem, puis tu as besoin de Jésus, il faut que tu ailles à Jérusalem. Mais c'est mieux que je m'en aille, parce que lorsque je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit, et lui, le Saint-Esprit, ne sera pas juste à Jéricho, ou à Jérusalem, ou à Québec, ou à Paris, ou à Montréal. Il sera en vous. De façon à ce que si vous êtes à Paris, il est avec vous. Vous êtes à Jéricho, il est avec vous. Vous êtes à Montréal, il est avec vous. Vous êtes à Saint-Hubert, Saint-Esprit est à Saint-Hubert. Alléluia. Vous allez à Dolores-des-Ormeaux, Saint-Esprit est à Dolores-des-Ormeaux. Alléluia. Vous n'avez plus besoin de courir après Dieu. Dieu est en vous. Plus besoin de chercher le Saint-Esprit. Saint-Esprit est en vous. 24 heures par jour. Et il vous suit, peu importe où vous allez. Pour ça que Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Maintenant, il y a toute une série de raisons pour laquelle c'est plus avantageux. Puis je vous garde ça pour la semaine prochaine. On va commencer avec la première raison. Vous allez voir, ça a bien du bon sens. Pourquoi Jésus a tellement insisté pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'honnêtement, si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, nous manquons le meilleur des choses de Dieu. Nous manquons la révélation suprême des choses de Dieu. Et nous ne pouvons pas comprendre les Écritures de la même façon. C'est impossible. Parce que si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit en toi, comment peux-tu vraiment comprendre par l'Esprit les Écritures que Dieu nous a données? Tu peux les comprendre avec ta tête, puis là, ça devient des disputes de mots, puis des obstinations plus finies. Ou tu peux la comprendre par la révélation du Saint-Esprit. Mais c'est sûr que si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit a beaucoup plus de facilité à te révéler les choses. Moi, j'ai toujours comparé ça entre le courant électrique. Il y a du 110, puis il y a du 220. Puis quand tu es sauvé, tu fonctionnes sur le 110. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu fonctionnes sur 220. Amen. Puis il y en a plus encore. Mais ça, c'est conduit par l'Esprit. Tu t'en vas sur... Qu'est-ce qu'il y a après le 220? 347. 347. Ouh, ça fait mal. Il n'y en a pas dans les 400 cas. Les hautes lignes?
440
vols.
600 vols.
600 vols.
Ça, tu as des lignes de 12 000 vols.
12 000 vols.
Des lignes de 25 000 vols.
20, on est mieux d'arrêter là. 25 000 vols. Wow! Wow! Tu commences avec du 110, tu es rendu à 20 000. Ça veut dire que c'est illimité, les choses de l'Esprit. Et si tu fonctionnes juste avec du 110, il y a certains appareils que tu ne peux pas faire fonctionner sur le 110, mais d'autres que tu peux faire fonctionner sur le 220. Et j'imagine que c'est la même chose. Plus tu montes dans l'intensité de voltage, ça fait des choses que le 110 ou le 220 ne peut pas faire. Puis c'est la même chose. Si vous n'êtes que sauvé sans être baptisé du Saint-Esprit, vous êtes limité à un certain voltage spirituel. Tu es baptisé du Saint-Esprit, oups! Là, tu peux avoir un poêle électrique. Tu peux opérer dans des choses plus grandes de l'esprit. Puis là, tu es conduit par l'esprit. Tu tombes dans le 300 quelques, le 440. Puis tu peux aller jusqu'à 20 000 vols dans le domaine de l'esprit. Puis c'est illimité, le domaine de l'esprit. Mais il faut que tu commences à être branché par le baptême du Saint-Esprit. OK? On se lève ensemble en terminant. Oh, hallelujah! Gloire à Dieu!